Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on tente de mieux comprendre les enjeux de l'OSINT dans la pratique journalistique. OSINT, ou en français, recherche en source ouverte. Plus concrètement, il s'agit de journalistes qui enquêtent depuis leurs ordinateurs pour recueillir, analyser, dénicher et recouper quantité de données accessibles à tous. Une forme de journalisme qui se développe dans la rédaction de médias traditionnels au gré des conflits armés, de la Syrie à l'Ukraine aujourd'hui. Un travail qui a permis la révélation de plusieurs scoops, dont celle autour de la tentative d'assassinat de l'opposant russe Alexei Navalny par le site Bellingcat, référence en matière d'OSINT. En quoi cette pratique induit-elle un nouveau rapport à l'investigation? Quelles sont ses origines, ses outils et plus globalement sa méthodologie à l'heure de la big data et des réseaux sociaux où prolifère la désinformation? Bref, en quoi l'OSINT redéfinit-il les frontières du journalisme? Beaucoup de questions et trois invités ce soir pour y répondre. Asia Baloufié, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef adjointe en charge de la cellule enquête vidéo OSINT du journal Le Monde, cellule qui a été créée en 2019 et qui vient de se renforcer avec une dimension plus internationale. Vous pourrez évoquer l'impact de la guerre en Ukraine sur le déploiement des enquêtes OSINT et revenir aussi sur les réactions qu'elles suscitent au sein de votre rédaction. À distance, Raya Romanos, bonsoir.
Bonsoir François.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut du journalisme à Bordeaux-Aquitaine. Vous êtes une spécialiste des évolutions du journalisme à l'heure du numérique. Vous pourrez revenir sur l'histoire de l'OSINT, son évolution, ses spécificités et nous donner des exemples étrangers à travers les initiatives de Bellingcat ou encore du New York Times. Enfin, en studio, Sébastien Bourdon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, enquêteur en source ouverte et vice-président de l'association Open Facto. Vous pourrez nous parler autant de votre travail d'enquête que de votre activité de formateur au sein des différentes rédactions françaises afin de mieux détailler la méthodologie de l'OSINT tout en évacuant aussi quelques clichés. Au programme également les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef à Numérama, qui plongera dans la mise en scène cinématographique du métier de journaliste à travers le film She Said. Notre émission s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde toujours sur la chaîne Twitch de France Culture. Le meilleur des mondes, c'est parti.
Moret.
Oh putain!
Dis-moi qu'on a une copie de l'interview.
Oh merde! Je suis désolé, mais je crois que cette partie est foutue.
Tout mon sujet reposait sur cette interview.
Salut tout le monde. Si je vous demande de citer la discipline cyber qui a explosé ces dernières années, il y a fort à parier que vous me répondiez l'OSINT.
L'OSINT, c'est très simple. C'est une discipline qui consiste à collecter, et pas seulement collecter, mais analyser toutes les informations qui sont accessibles publiquement, librement.
Et ces données sont multiples. Ça va être par exemple des données qui vont être trouvées sur les réseaux sociaux, comme des publications Facebook, Instagram, des tweets, ou bien des données un petit peu différentes, comme des positions Google Maps, des bases de données qui ont fuité.
On vous amène ce soir à la rencontre d'un groupe d'enquêteurs, dont certains sont de simples citoyens, qui dissèquent le web pour démasquer des auteurs de crimes graves. Pensez aux attaques chimiques en Syrie, au meurtre de dissidents russes et même à cet avion de la Malaysia Airlines qui a été abattu en Ukraine.
Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens qui travaillent sur les data et ils nous apportent autre chose. Et peut-être va-t-il falloir que nous ouvrions notre propre profession parce que l'information ne nous appartient pas.
Alors, il est de coutume dans Le Meilleur des Mondes de commencer par un zeste de vulgarisation, surtout avec un acronyme assez complexe, l'OSINT, l'Open Source Intelligence ou renseignement en source ouverte. Donc concrètement, Sébastien Bourdon, comment on peut définir le travail d'un journaliste qui pratique l'OSINT?
Alors, c'est une définition qui est pas facile. La recherche en source ouverte, c'est donc le fait d'utiliser toute information qui est librement accessible. Une information qui est contenue dans un livre qui se trouve dans une bibliothèque est librement accessible. En l'occurrence, quand on parle d'OSINT, on parle de recherche en source ouverte sur Internet. La pratique journalistique à partir de l'OSINT, c'est donc tout simplement, en tant que journaliste, d'utiliser ces informations librement accessibles sur Internet à des fins soit d'enquête, soit de fact-checking, à des fins journalistiques relativement classiques.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de comprendre déjà que ce sont des données qui sont accessibles à tous, donc globalement elles peuvent être devant nos yeux, enfin pas forcément devant nos yeux parce qu'elles peuvent être quand même cachées quelque part, mais en tout cas elles sont accessibles.
Bien sûr, tout l'enjeu, en fait, c'est d'apprendre à chercher de façon la plus efficace possible sur Internet. Il y a une quantité de tweets, de publications Instagram ou je ne sais quoi qui est publiée chaque minute, qui est absolument délirante. Évidemment, dans le cadre de peu importe le sujet sur lequel vous travaillez votre enquête, l'immense majorité de ces tweets, de ces publications ou autres ne vous intéressent absolument pas. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à chercher dans cette masse d'informations délirantes, c'est un peu l'aiguille dans la botte de foin d'Internet, pour trouver le tweet, la photo ou l'information qui peut vous servir pour votre travail de journaliste.
Alors, Raya Romanos, les origines de l'OSINT viennent des services de renseignement post-guerre froide. Enfin, c'est l'une des origines. On est assez loin de l'univers journalistique.
Oui, oui, tout à fait. Alors là aussi, c'est un peu comme pour la définition de l'OSINT, c'est un peu compliqué de déterminer des origines exactes. Mais quand on parle d'open source intelligence, on est plutôt dans le monde du renseignement. On est sur, ne serait-ce que pour le mot et pour les techniques et pour les approches, on est sur des méthodes qui ont d'abord été développées dans les services de renseignement, qui consistent, comme vous l'avez dit, hein, à repérer des informations, à les classer, à les analyser, à les relier entre elles, à déterminer les sources des documents, à localiser, à identifier des personnes sur des images, sur des vidéos, tout ce que vous avez décrit comme étant des méthodes employées aujourd'hui dans le journalisme sont des méthodes qui ont été développées par des services de renseignement pour des opérations de sécurité, pour des opérations de contre-renseignement. Ça, c'est vrai. Après, ça ne veut pas dire que ce qui se fait aujourd'hui dans le monde journalistique est totalement tributaire de ces origines-là. Et ça ne veut pas dire non plus que les journalistes n'ont pas développé aussi de leur côté des méthodes qui ne sont pas nées dans ces fameux services de renseignement, mais qui sont nées de la pratique journalistique. Parce que là aussi, c'est un point important à signaler. Et beaucoup de journalistes qui, très tôt, se sont intéressés à Internet, très tôt, se sont intéressés au monde numérique, à ses subtilités, à son fonctionnement, qui sont par ailleurs, qui ont certaines compétences techniques, informatiques, ont mené des enquêtes sur ce monde numérique et ont employé les méthodes que l'on décrit aujourd'hui. Et quand on leur pose la question, ou eux-mêmes, quand ils parlent de leur pratique d'enquête en sources ouvertes sur le numérique, ils disent « Écoutez, nous, on fait de l'OSINT depuis très longtemps sans savoir que ça s'appelait de l'OSINT. » Et là aussi, ça, c'est vrai.
Oui, parce qu'on a entendu Sébastien Bourdon à l'instant qui disait finalement aller rechercher de l'information sur une source ouverte, c'est une forme d'OSINT qui est pratiquée par tout le monde. C'est intéressant de revenir aussi sur ces origines d'images un peu de renseignement, qui est peut-être une sorte aussi de cliché qui colle un peu à l'image de l'OSINT, Asia Balufier. Est-ce que c'est déjà pas... Comment vous vivez avec cette image-là justement qui vient un peu de leur renseignement? Est-ce que je vous rappelle, vous avez développé le service au sein de la rédaction du Monde. Est-ce que dans la rédaction d'un journal, on va dire traditionnel du Monde, même si on sait très bien que c'est une rédaction en mutation constante et puis en miroir de son époque, mais comment ça a été perçu, cette cellule d'OSINT? Elle s'est créée quand exactement?
Alors, la cellule enquête vidéo au Monde, on parle de cette cellule-là depuis 2019, à peu près, donc il y a 4 ans, au début du mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, on a initié cette cellule, non pas du tout pour des sujets géopolitiques, comme on pourrait l'imaginer pour du renseignement, ou de terrorisme ou de choses comme ça, mais c'était pour traiter l'afflux immense d'images qui venaient tous les week-ends sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, pendant les Gilets jaunes, sur les violences policières présumées, qui se retrouvaient, voilà, des vidéos amateurs qui se retrouvaient sur Twitter. Et donc c'était pour traiter ça que nous, on a commencé à s'auto-former de manière assez informelle aux bases et aux rudiments, quoi, de l'OSINT, c'est-à-dire comment collecter de manière efficace ces images, ces informations sur les réseaux sociaux, et aussi comment les vérifier
les authentifier.
L'authenticité. En gros, vérifier leurs métadonnées quand il y en a, pour peut-être avoir le moment où elles ont été filmées.
Alors, métadonnées, on va rappeler que ce sont donc des données qui n'apparaissent pas peut-être tout de suite de manière accessible par rapport à une photo, un fichier qui peut, par exemple, localiser et puis donner des repères temporels, par exemple.
Oui, voilà. C'est l'ensemble des informations liées à un fichier. Dans le cas des photos, il peut y avoir parfois l'heure. Il peut même y avoir la localisation, c'est plus récent et c'est beaucoup plus rare aussi. mais c'est utile quand il y en a.
Et donc quand justement cette cellule-là arrive dans le monde, elle est accueillie comment ?
Oui, alors c'est ça la question. Pas trop comme un... Il n'y a pas d'enjeu de renseignements étranges. On a plus été vus comme des geeks au début, justement parce qu'on commence à parler de métadonnées. Et je pense que c'est ce genre de termes qui sont... C'est normal d'ailleurs, obscurs, qui voilà, créent une distance. Mais il n'y a pas eu d'enjeu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un problème sur l'usine, c'est qu'on est quand même vu par certains comme un milieu trop militarisé, trop militaire, trop proche des États, des gouvernements, etc. Enfin, une partie d'entre nous, en tout cas. Mais ça n'a pas été trop notre cas parce qu'on ne traitait pas à ce moment-là du tout de sujets géopolitiques.
Et puis quand vous dites que vous êtes associé beaucoup à un côté un peu militarisé, donc là on revient un petit peu justement aux origines, et aussi parce qu'il y a de l'usine qui est pratiquée pas uniquement par des journalistes et qui peut être pratiquée par des hackers, qui peut être pratiquée par des espions, qui peut être pratiquée par des personnes justement au sein d'un état de gouvernement, mais là on parle bien de l'usine journalistique. D'ailleurs Sébastien Bourdon, c'est quoi les outils et la méthodologie de l'usine? Je rappelle que vous êtes formateur pour expliquer, je sais pas, en quelques mots, la méthodologie, l'esprit donc de l'usine.
Vaste question également. L'idée, c'est tout simplement... Alors, en fait, ça varie beaucoup selon ce qu'on essaie de faire. Si on travaille, notamment en usine, on travaille beaucoup sur des images. Typiquement, quand on travaille sur une image en usine, deux questions qui, peu importe ce que vous essayez de faire, que ce soit un travail d'enquête, de fact-checking ou autre, deux questions qui très souvent peuvent guider votre travail, c'est ce qu'on appelle la géolocalisation et la chronolocalisation. Alors, la géolocalisation, c'est tout simplement de faire déterminer où une image a été prise. Si vous voulez simplement faire du fact-checking, de la vérification, et par exemple vérifier que telle image montre bien une manifestation qui a eu lieu à Paris, bah, la première étape qui très souvent permettra au moins en partie de répondre à la question, c'est donc de vérifier si oui ou non cette photo a bien été prise à Paris. Dans un second temps, la chronolocalisation, c'est le fait de déterminer quand une image a été prise. Et de la même façon, si on vous dit, si telle image qui circule sur les réseaux sociaux, on vous dit que c'est une image qui date du 5 décembre 2019, par exemple, et que vous arrivez à dater cette image et à vous rendre compte qu'elle n'a pas été prise en 2019, mais en 2017, et ben évidemment, à des fins de vérification,
c'est quoi les outils, justement? Parce qu'on a bien compris les métadonnées, mais je pense que ça dépasse la notion des métadonnées. Donc, quels sont les outils que vous utilisez? Il y a ceux qu'on connaît, Google Maps, etc., pour peut-être arriver à localiser, mais c'est les outils de base, on va dire, dans la boîte à outils du journaliste qui pratique l'usine.
Alors c'est un grand fantasme autour de l'usine. Il y a assez peu d'outils en fait.
Il n'y a pas de truc magique quoi, c'est ça.
Il n'y a pas de truc magique. En tout cas, moi je ne les connais pas. Si quelqu'un a des suggestions, je serais preneur. Mais typiquement pour géolocaliser une image, pour savoir où une image a été prise, je ne connais aucun outil, aucune application payante, gratuite ou autre à qui vous pouvez soumettre votre image et qui automatiquement va vous dire où elle a été prise. Pour géolocaliser une image, typiquement le processus habituel, c'est tout simplement en fait de regarder attentivement l'image pour essayer de repérer des indices visuels. Ça peut être la forme, le type de bâtiment en arrière-plan, le paysage, s'il y a des montagnes, si on a un plan d'eau, etc., etc., qui vont vous permettre de déterminer une zone de recherche dans laquelle cette image potentiellement a pu être prise. Et ensuite, les outils, entre guillemets, ou plutôt les plateformes qu'on va utiliser, c'est des plateformes extrêmement classiques, Google Maps notamment, Yandex Maps, qui est une sorte d'équivalent russe, il y en a d'autres, mais le principe reste grosso modo le même. Et l'idée, c'est tout simplement ensuite d'aller parcourir sur ces plateformes de cartographie pour retrouver l'endroit exact où l'image.
Des caméras de vidéosurveillance, par exemple, ça vous arrive de pouvoir les utiliser ou pas?
Ça m'est arrivé à une occasion à la frontière biélorusse.
Ah oui, c'est vrai, c'était ensemble ça.
C'était pour une enquête pour le Monde, tout à fait.
Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, on sait très bien qu'on a des outils technologiques qui nous surveillent, qui nous tracent, qui sont d'ailleurs plutôt dans les mains des gouvernements, des États, qu'on soit plus ou moins dans un État autoritaire. Là, c'est aussi une sorte de retournement d'outils qui sont censés parfois nous surveiller, nous tracer, un retournement pour arriver à établir justement une vérité des faits. Et donc une forme de liberté, on va dire, de l'information. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette idée de retourner des outils qui nous tracent, Asia ?
Oui, alors je m'étais jamais posé la question en mode retournement d'un truc qui me surveille, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'usine, ça offre la liberté à tout le monde. C'est ça qui est très plaisant dans la démarche dès le début, puisque c'est accessible au plus grand nombre de s'emparer de tout ce qui est disponible partout, sur Internet ou ailleurs, pour enquêter. Et pour traquer la vérité, les faits, la véracité et l'authenticité de tous les documents qui nous sont présentés. Et en ça, c'est vraiment un vecteur de liberté important. Et donc, ça limite un tout petit peu la possibilité de tyrannie dans certains États, j'imagine, pour tout un chacun, quoi.
Alors, pour justement mieux comprendre à quoi ressemble une enquête OSINT qui est souvent restituée sur le format de la vidéo, et avant de donner la parole à Raya Romanos, on va écouter un petit extrait d'une de vos enquêtes, Sébastien, une enquête pour Mediapart.
C'est ce qu'on voit également au début de cette vidéo. Revoyons ces images. On y aperçoit les restes d'un missile à sous-munition s'écraser au pied d'un immeuble d'habitation. Cette séquence a été filmée à Kharkiv, devant ce bâtiment, le 28 février 2022. Ce missile vient du nord, c'est-à-dire depuis les zones sous contrôle de l'armée russe. Sur cette autre vidéo, filmée au même endroit, on voit qu'une femme a été grièvement blessée par la chute du missile. Le pied arraché, elle est décédée des suites de ses blessures, selon le Guardian.
Voilà, on voit justement par le son et par l'image que vous ne pouvez pas voir ici, comment on analyse, comment on dissèque justement ces séquences. Il y a vraiment quelque chose aussi d'assez scientifique dans la manière dont c'est mis en scène. Raya Romanos, il y a quelque chose d'intéressant quand on questionne justement la pratique journalistique, c'est celle de la distance. C'est-à-dire que là, on a quand même des journalistes qui vont assez peu sur le terrain, on va dire le terrain physique, on est d'accord. Vous travaillez principalement derrière vos ordinateurs, alors que c'est une forme de terrain, c'est un terrain numérique. Vous l'avez analysé, ça justement, Raya Romanos, la notion de distance. Comment finalement Lozine redéfinit un peu la question de la frontière, de la distance par rapport à son sujet ?
Oui, alors la question de la distance est vraiment fondamentale, elle est vraiment intéressante quand on observe de près ces nouvelles productions finalement journalistiques qui de fait partent d'un travail très rigoureux qui peut s'apparenter à un travail scientifique qui par moments l'est véritablement. Hein. Dans la manière de déterminer ce qui s'est passé, dans la manière d'analyser des faits, de recouper et pour tenter d'aboutir à une forme de vérité, il y a une démarche qui est très proche de la démarche scientifique. Et la distance physique vis-à-vis du terrain, parce qu'on n'est pas sur place généralement, parce qu'on va se servir justement de ressources, de matières premières qui vont nous arriver depuis un terrain sans y être physiquement, cette distance physique induit aussi une forme de distance analytique qui va, d'une certaine manière, garantir un détachement nécessaire à la lecture des événements. Et une lecture qui serait, cette fois-ci, une lecture plus fiable, d'une certaine manière, que celle du journaliste qui est présent au cœur de l'événement, alors que ça s'agite de partout, alors qu'il y a des tirs, par exemple, ou alors on est dans une foule lors d'une manifestation et il y a une charge policière. Ce que l'on observe quand on est sur le terrain au moment où éclate un événement de type possiblement violent n'est pas le même que ce que l'on peut observer quand on est assis dans un bureau devant son écran et qu'on s'intéresse à cette affaire-là et qu'on peut la décomposer, qu'on peut la délinéariser, c'est-à-dire que l'événement, lui, forcément, il suit un flux linéaire et le journaliste Osinter va le découper.
C'est intéressant, pardon, ce que vous nous dites.
En petit.
Oui. Raya Romanos, pardon, parce que vous nous dites que finalement le fait qu'il ne se déplace pas, le journaliste, alors on va dire que dans la tradition, dans le romantisme même journalistique, on a plutôt en tête les reporters de guerre qui vont justement dépasser leurs limites, faire preuve de courage et aller au plus près de l'événement, au plus près du terrain. C'est souvent ce journalisme-là qui est d'ailleurs récompensé, qui est même mis en scène. Et là, vous nous dites que finalement, le fait de ne pas se déplacer préserve, bon, pourquoi pas une sorte de sécurité, mais surtout préserve une certaine forme d'objectivité parce qu'il n'est pas soumis à l'émotionnel qu'il pourrait ressentir.
Analytique. Ouais. Ouais. De distance, je dirais pas jusqu'à l'objectivité parce que c'est pas le propos. C'est vraiment une manière d'observer de l'extérieur ce qui se passe plutôt que d'être confronté à ses propres angoisses, à ses propres peurs, à son propre ressenti du moment qui peut de fait brouiller la vision que l'on peut avoir, la vision analytique d'un événement. Là, on est éloigné de l'événement et on l'observe et on le décrypte, on le décortique, on le décompose en petits morceaux. On l'observe à la loupe, on peut employer cette métaphore-là, comme si on était dans un laboratoire de recherche et qu'on regarde de près. Et il y a un autre avantage, c'est que comme on récupère pas mal de ressources, que certaines sont captées depuis le sol, d'autres depuis le ciel, avec les images notamment satellitaires, qu'on a différents points de vue, différents angles, on est en capacité de recomposer une scène beaucoup plus, fidèle, proche du réel, que celle de notre seul point de vue au milieu d'un événement. Et ça, de fait, est un vrai avantage. Et les enquêtes aux INT qui sont publiées depuis un certain moment maintenant, que ce soit par Le Monde, Asia va en parler, que ce soit ailleurs, à l'international, sont spectaculaires dans ce sens-là. Quand on quand on suit le récit, quand on suit le déroulé de l'argumentaire journalistique, on est impressionné par cette nouveauté qui consiste à étudier l'événement de différents points de vue avec une certaine distance.
Sébastien Bourdon, c'est intéressant justement de ramener cette notion de distance. D'ailleurs, on le dit, faut savoir prendre de la distance aussi par rapport à son sujet. Là, vous en apprenez à double titre. Déjà, distance, vous êtes loin, a priori, géographiquement, et cette distance vous permet justement d'analyser et de faire d'une certaine manière ce travail-là. Parce qu'on est d'accord, quand vous faites de l'usine, vous vous déplacez jamais sur le terrain.
En tout cas, moi, à titre personnel, je me déplace à peu près jamais sur le terrain. Ça m'est arrivé à quelques reprises, mais c'est assez rare.
Et c'est vrai que cette idée de Raya est intéressante parce qu'elle va aller un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre sur les pratiques journalistiques.
Je suis tout à fait d'accord sur cette idée que, alors je sais pas si c'est une vérité absolue, mais qu'en tout cas à distance et à travers cette pratique de l'OSINT, on a potentiellement un point de vue plus large en fait sur les événements. Ça m'est déjà arrivé de travailler, de faire un sort de travail de veille en OSINT, en partenariat, enfin en binôme avec des journalistes qui étaient par exemple au sein d'une manifestation, et un peu de les tenir au courant de ce que moi je voyais à distance en regardant des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, mais notamment également en regardant des lives diffusé sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Évidemment, quand vous regardez sur vos écrans d'ordinateur, que vous avez 5 lives, 5 points de vue différents, bah vous voyez en fait plus de choses et vous avez un aperçu beaucoup plus global qu'une personne au sein d'une manifestation, au sein d'une foule, où potentiellement le champ de vision de la personne est par définition relativement restreint. Donc il y a un peu ce côté peut-être presque omniscient qu'on peut
avoir. Presque Big Brother, on parlait justement de surveillance, il y a un peu cette idée-là.
Il y a parfois
tour
un peu,
de contrôle
un peu
en tout cas.
Cette idée-là, notamment quand on travaille beaucoup à partir d'images, alors que ce soit à la fois sur des événements en temps réel, ou à la fois pour un certain nombre d'enquêtes, un travail relativement classique qui a été fait par différents médias dans le cadre de différentes enquêtes, notamment sur des cas de violence policière, c'est de récupérer tout un tas de vidéos, d'images qui ont été filmées au sein d'une manifestation, de les synchroniser pour obtenir en fait exactement comme un sorte d'écran de contrôle avec lequel on aurait la même manifestation ou la même scène depuis 3, 4, 5, 10 points de vue différents, ce qui évidemment permet de beaucoup mieux voir ce qui s'y passe que si vous étiez simplement sur le terrain avec les yeux embués par le gaz lacrymogène et des gens qui courent tout autour de vous.
Sans parler effectivement de l'état de stress qu'il peut y avoir aussi lorsqu'on est directement sur le terrain, même si parfois on va voir que la pratique de l'OSINT peut se cumuler aussi avec d'autres formes journalistiques plus classiques. On va écouter aussi une de vos enquêtes, Asia Baloufi, une enquête du Monde, qui concerne l'entreprise Auchan, toujours en Russie.
Le Monde, en partenariat avec Bellingcat et The Insider, a obtenu des mails internes à la branche russe d'Auchan et collecté des images sur les réseaux sociaux. Ces documents révèlent que des produits vendus par les deux entreprises alimentent et équipent les soldats de Vladimir Poutine sur le front ukrainien. Dans le cas d'Auchan, ils montrent comment sa hiérarchie en Russie ne pouvait ignorer à qui ces produits étaient destinés. Et comment celle-ci a, malgré tout, fini par organiser leur collecte.
Asia Baloufi, donc cette enquête qui pointe du doigt, qui affirme à travers différents documents que Auchan et Laura Merlin aussi, je crois,
dans une mesure un peu différente,
ont participé à une sorte de campagne russe, en tout cas ont soutenu l'armée russe. Vous parlez justement dans le début de cette enquête de mails qui ont fuité, que vous avez récupérés. Là, on est d'accord qu'on n'est pas sur de la source ouverte, c'est-à-dire qu'à la base, ce sont des mails qui n'étaient pas publics. Donc ça part déjà d'une fuite de documents. Donc on n'est pas tout à fait ici dans une source d'OSINT.
Totalement. Et de plus en plus, on cumule les deux, en fait. On se rend compte que l'OSINT, c'est cette botte de foin gigantesque dans laquelle on peut aller collecter des informations, et c'est génial, c'est extraordinaire. Mais c'est bien aussi de le recouper avec des sources sur le terrain. C'est aussi parce que y a des gens qui ont des accès privilégiés à des choses. C'était le cas là pour les emails. Et que c'est donc des tips, comme dans n'importe quelle enquête journalistique, qui vont nous faire porter attention sur un terrain, un cas qu'il faut couvrir. Et là, en l'occurrence, ces mails, c'est un lanceur d'alerte en fait, qui voit qu'il y a des problèmes, qui contacte des journalistes pour dire je pense qu'il y a un problème ici, vous devriez regarder. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord vérifié ces dires et ces mails, Et ça, pour le coup, on utilise des outils d'OSINT. Et après, grâce à ce tips-là, on est allé regarder dans la botte de foin des réseaux sociaux russes si on pouvait voir d'autres occurrences en fait de ces cas-là où Auchan ou le roi Merlin en l'occurrence sont trop tolérants avec ces collectes de ravitaillement en gros pour le front russe et que dans le cas de le roi Merlin c'est de la tolérance, voilà, on ferme les yeux sur le fait que ça se produit et dans le cas d'Auchan on a les preuves sur le fait que ils ont organisé au moins une collecte relativement massive pour aller sur le front russe, quoi.
Et donc une collecte d'argent, de produits
C'est principalement de la nourriture, des vêtements chauds pour l'hiver. Il y a aussi des outils, des pelles, des pioches, des outils pour tenir un campement en extérieur.
Et dans le cadre justement de cette enquête, et puis même plus généralement, est-ce que vous allez pouvoir avoir accès à des témoignages de gens sur place, à une...
On le fait pratiquement systématiquement, oui, de joindre les gens. Alors, on le fait toujours en se présentant comme journaliste, et donc parfois, ça ferme des portes. Et notamment en Russie, ça a été le cas, quand on arrive en disant, voilà, je suis journaliste pour Le Monde, un média français occidental. On a peu de gens qui nous répondent facilement, parce que c'est l'ambiance là-bas. Mais on parvient à le faire assez régulièrement quand même. Et ça complète, en l'occurrence par exemple dans ces mails, il y a des horaires de livraison qui sont donnés avec des dates et des plaques d'immatriculation de voiture. On a fait deux choses, c'est un, on a contacté le chauffeur du véhicule parce que on a pu retrouver le véhicule, on a pu retrouver donc son chauffeur parce qu'il y a aussi son numéro de téléphone. Tout ça c'est des bases de données qui existent. En Russie c'est assez incroyable le nombre de données qui sont présentes sur internet et qui sont gratuites. Il y en a aussi qui sont payantes mais qui sont gratuites. Et donc c'est des moyens grâce à l'OSINT de recouper des témoignages qui sont des sources mais qui sont pas forcément fiables. On en parlait tout à l'heure sur un témoignage sur un terrain de guerre ou de manif. Les gens sont subjectifs, les gens peuvent se tromper. L'OSINT nous permet d'apporter un peu d'objectivité dans tout ça.
On connaît effectivement toutes les expériences de trois regards différents qui assistent à la même scène. C'est rare que justement la retranscription de ces trois regards soit similaire. Chacun aussi interprète les choses à leur manière en pensant détenir une forme à chaque fois de vérité. Raya Roumanos, pour bien distinguer ces différentes enquêtes, vous parlez d'enquêtes dites réactives et des enquêtes dites proactives dans l'OSINT.
Alors, est-ce que je peux juste faire une mini-remarque avant et puis après
Avec plaisir.
Alors, sur cette question de travail à distance ou de travail de terrain, c'est pas l'un ou l'autre en fait. L'enjeu ici, c'est d'utiliser la meilleure méthode possible et disponible pour pouvoir déterminer ce qui se passe et donner une information la plus juste possible. Parfois, l'OSINT peut suffire, parfois il ne suffira pas. Ce qui est par contre certain, c'est que négliger l'OSINT parce que c'est du travail à distance est une erreur. Aujourd'hui, les informations existent et elles sont accessibles. Il est important que les journalistes soient en capacité les repérer, de les capter, de les étudier pour en faire quelque chose. Ne pas le faire, à mon sens, est une erreur et les journalistes parleront même de faute. Si on prend l'exemple de l'invasion du Capitole et des superbes enquêtes qui ont eu lieu, qui sont des enquêtes OSINT, qui ont permis de déterminer les circonstances de cette invasion, ce qui s'est passé à l'intérieur, parce qu'il y a quand même eu des conséquences graves. Ces enquêtes-là n'ont pu se faire que parce qu'il y avait l'OSINT, ces techniques OSINT qui ont été mises en place et utilisées par les journalistes. Donc c'était juste comme un commentaire pour le dire.
Après, je vous parlais du distinguo, effectivement, enquête réactive et proactive.
Oui, absolument. Alors du coup, c'est une manière de schématiser. Hein. De fait, il y a plusieurs possibilités de catégoriser le type d'enquête que l'on lit, que l'on suit aujourd'hui et qui peuvent être inscrites sous la bannière de l'OSINT. Alors, ma manière de schématiser a été de dire il y a des enquêtes qui sont rapides, qui sont ciblées, qui généralement ont un périmètre qui est plutôt réduit, qui servent plutôt à checker, fact-checker, vérifier une information, et ce serait plutôt des enquêtes réactives, où le journaliste va réagir à une information qui va être diffusée. Ça peut être un propos, ça peut être une image, ça peut être tout un tas d'autres choses. Et l'enjeu ici, c'est de pouvoir apporter un éclairage clair et quasi définitif sur ce qu'on est en train de voir, sur ce qui est en train de circuler, sur tel rumeurs. Voilà, donc là, on est sur une réaction, on est sur le temps de l'actualité. Et c'est une grande partie, finalement, des petites enquêtes OSINT, ou en tout cas des petites enquêtes qui utilisent des techniques OSINT. L'autre catégorie, c'est celle que par exemple, pratique Asia et d'autres médias, consiste plutôt à sortir de l'exigence de l'actualité la plus chaude pour plutôt explorer des sujets qui ne l'ont pas été, qui ont plutôt été écartés. Et à ce moment-là, on est sur un travail de documentation de l'événement qui a eu lieu. Donc on est sur la composition d'un récit qui est beaucoup plus documenté.
Et puis on est logique effectivement de la révélation et un petit peu du scoop.
On est sur ce qu'on appelle le journalisme d'investigation.
Le journalisme d'investigation façon OSINT, effectivement. Et puis on a l'occasion d'en parler en évoquant notamment le travail du collectif Bellingcat qui s'est fait particulièrement remarquer par ses activités d'investigation. Mais tout de suite, je vous propose de quitter un petit peu la jungle de l'OSINT pour retrouver le jardin d'Éden, celui d'MC Solar.
C'est de la bombe, bébé. Quand j'étais petit, on m'appelait rapporteur. J'ai tant aimé l'idée que je suis devenu reporter. Un jour, mon chef de rubrique m'a dit: tu seras notre envoyé spécial là-bas au paradis. J'ai vu que du bonheur et puis des lacs bleutés. À chaque paysage, je disais quelle beauté. Se promènent accompagnés de leurs licornes. Parlent de nouvelles modes sans se soucier de leur forme. Sur la terre, je faisais des bidonnages réels scoop. Une sauterelle devenait kangourou. Grâce à ma loupe, j'avais pris le parti d'être jugé parti. Publication judiciaire, et puis c'était reparti. Mais là, je veux pas troubler cet idéal. L'homme et l'animal, la femelle et le mâle flottent sur le bonheur. Parce qu'ici y a pas de peine, c'est pas la jungle urbaine, non. C'est le jardin d'Éden. Pas de peine, pas de haine, c'est le jardin d'Éden. Transparente avec des reflets d'or. Les gosses font des ricochets tandis que d'autres pratiquent le sport. Tout semble romantique dans ce tableau d'osmose. Ou sensuel comme cette brune avec des yeux roses. Ici y a pas de guerre, on n'est pas sur la terre. On ne croise pas le fer, on expulse les nérons. Y'a pas de yin que de yang, pas de gang ni d'arang. Navigue avec le flot sinon Dieu te coupe la langue. On prête le prêche au prêtre, le pécheur et l'oppresseur. La septième prophétie peut-être comme le rouleau compresseur. Si les plages et les sources sont pas pleines de goudron. Pas de course à la bourse, pas de course au pôle. Y'a des montagnes magnifiques avec des neiges éternelles. Le respect de la nature tient une place surréelle. C'est un peu comme l'auberge du bouleau blanc. L'île de Sentinelle, le tout dans le beau temps. Article censuré, pas assez sensationnel. Je redeviens freelance, le monde est beau, la terre est belle. J'ai gardé tes photos, jardin d'Éden, je t'aime. Je rends ma carte de presse, trois petits points, F-I-N. Pas de peine, pas de haine, c'est le jardin d'Éden.
Et c'était le jardin d'Éden d'MC Solar qui passe ce soir dans le meilleur des mondes.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on ouvre ce journal par une première, celle de la diffusion d'un spot politique entièrement réalisé par une intelligence artificielle et qui préfigure de la guérilla qui nous attend. Intitulé « Beat Biden », il a été publié sur le compte du Parti Républicain en riposte à l'annonce du président des États-Unis qui envisage de se représenter pour « finir le job », comme l'indique son slogan. On y découvre des images post-apocalyptiques avec un faux Joe Biden et des scènes de chaos. Les Républicains imaginent ce qu'il se passerait si le démocrate était réélu. Ouverture des frontières, faillite insécurité économique, tensions géopolitiques avec le bombardement de Taïwan par la Chine, l'IA est utilisée pour montrer le pire en présentant le Parti républicain comme l'antidote à la débâcle. Une simple petite mention réalisée avec l'IA s'affiche en haut de l'écran et voilà sans doute ce qui nous attend pour les prochaines élections de 2024, surtout avec un Donald Trump prêt à remonter sur le ring et qui pourra compter sur la réactivation de ses réseaux sociaux. L'intelligence artificielle et ChatGPT seront au cœur de la propagande politique qui s'annonce aussi chaotique que le clip de campagne des Républicains. Va donc bien falloir qu'on s'y prépare. Et eux n'étaient sans doute pas prêts. Et pourtant, ils ont fièrement lancé leur nouveau agent conversationnel baptisé MyEA. Eux, c'est Snapchat, réseau adoré des adolescents et post-adolescents qui, après un test auprès de leurs abonnés payants, ont déployé dans une grande partie du monde leur petit avatar qui fonctionne avec ChatGPT. En gros, c'est un ami virtuel qui s'introduit dans les messageries des utilisateurs pour discuter 24 heures sur 24 avec eux. Le problème, c'est que beaucoup le trouvent bien trop intrusif. Certains se plaignent que cet ami dispose de beaucoup trop d'infos. Il pratique peut-être un peu trop l'osint, cette IA virtuelle. D'autres en ont assez de le voir apparaître en premier dans leur fil de messagerie ou de le voir s'incruster dans des groupes de discussion. Parfois, il peut également très mal conseiller les plus jeunes dans leur vie amoureuse en oubliant qu'ils sont mineurs. Résultat aux États-Unis, sur l'App Store, la note de Snapchat dégringole et le réseau américain semble avoir raté son coup pour rivaliser avec son concurrent TikTok. Bref, MyEA n'est pas encore un outil fiable et brouille les pistes en se faisant passer pour un ami qui vous veut du bien.
Je saurais être ton ami si tu veux me parler milieu de la nuit.
Et on termine avec un petit jeu qui met très bien en lumière la période que nous vivons où l'humain se confond si facilement avec la machine et inversement. Le jeu s'appelle Human or Not et le concept est le suivant. Vous conversez pendant 2 minutes avec un interlocuteur via une messagerie et à la fin vous devez vous prononcer. Étais-je en train de parler à un humain ou à une machine ? C'est une sorte de chat roulette qui revisite le test de Turing. Le site vous fait donc rencontrer de manière aléatoire un autre joueur comme vous ou bien un robot. J'ai pu le tester, c'est assez amusant de constater qu'en tant qu'humain, je me mettais à répondre comme un robot pour tenter de piéger mon interlocuteur qui pouvait, lui, être une machine. Bref, vous êtes perdu, c'est normal, mais vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Welcome to the brave new world.
I was wondering, are you a robot?
Et je suis entouré de 3 humains pour parler d'Ozint et de pratiques journalistiques en compagnie d'Asia Balufier qui est chef adjointe en charge de la cellule enquête vidéo Ozint du Monde, de Sébastien Bourdon qui est journaliste indépendant et vice-président de l'association Open Facto qui forme à l'Ozint et de Raya Roumanos qui est maîtresse de conférence à l'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine. On parle justement de l'Ozint. Raya, avant de partir justement sur ces nouvelles, évoquer les enquêtes proactives, les enquêtes d'investigation. Sébastien Bourdon, on ne peut pas parler d'Ozint sans évoquer donc un peu plus en détail le collectif Bellingcat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être d'où il vient, qui l'a fondé et surtout en quoi il a démontré que la pratique de l'Ozint pouvait être très efficace pour sortir des scoops, des révélations?
Alors Bellingcat, c'est un collectif qui a été fondé en 2014 par un Britannique qui s'appelle Elliot Siggins. 2014, on est donc à peu près à la période du début du conflit en Libye notamment. Donc c'est sur ce premier sujet que Elliot Siggins à l'époque a notamment travaillé. Et très rapidement, il y a leur première grande enquête, ou en tout cas ce qui a commencé à vraiment les faire connaître, c'est leur travail sur le vol MH17. Donc c'est cet avion de la Malaysian Airlines qui a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine au moment du début de la guerre dans le Donbass. Et ce que Bellingcat a réussi à faire à l'époque, c'est que ils ont parcouru les réseaux sociaux, donc recherchant sources ouvertes. Ils ont récupéré tout un tas de photos et de vidéos qui montraient un convoi militaire assez important. Et au sein de ce convoi militaire, il y avait un système de missiles anti-aériens. Et à partir de toutes ces images qu'ils ont collectées sur les réseaux sociaux, ils ont fait un travail qui est double. Ils ont géolocalisé ces images, donc déterminé où elles avaient été prises. Et ils les ont ensuite chronolocalisées, donc déterminé quand elles avaient été prises. Et en faisant ce travail-là, ils ont pu donc reconstituer en fait le parcours de ce convoi militaire. Et ils se sont rendus compte que ce convoi militaire, il était parti du territoire de la Fédération de Russie, d'une base militaire officielle de l'armée russe. Il avait traversé la frontière et est arrivé en Ukraine dans la zone tenue par les séparatistes le jour du crash. Et le lendemain du crash du MH17, ce même convoi convoi militaire avait fait demi-tour, était retourné en Russie, et sur les 4 énormes missiles antiaériens qui étaient visibles sur les images de l'allée, il en manquait un. Et c'était donc, à l'époque, la première preuve de l'implication potentielle d'un armement russe et de l'armée russe dans cette affaire. Depuis, ils ont travaillé sur tout un tas d'autres sujets. Ils ont beaucoup travaillé sur le conflit en Syrie, notamment, et l'utilisation d'armes chimiques. Et plus récemment, ils ont surtout été connus du grand public pour leur travail sur les différents empoisonnements ou tentatives d'empoisonnement des services russes, l'affaire Skripal, l'affaire Navalny notamment.
Et là, ils ont été effectivement connus à l'international, hein, puisque ça a été des affaires retentissantes qui ont permis peut-être un peu de mieux comprendre et de vulgariser la pratique de l'usine. Pour bien comprendre, c'est un collectif aujourd'hui international composé de dizaines et de dizaines de journalistes à travers le monde, c'est ça ?
Alors l'équipe, je ne sais pas exactement combien ils sont, je dirais quelques dizaines. Ils ont un sort de statut, je crois, plus ou moins d'ONG à l'heure actuelle aux Pays-Bas. C'est là-bas qu'ils sont basés, mais ils ont des personnes qui travaillent pour eux à travers le monde. Je suis pas d'ailleurs sûr que, enfin, je ne pense pas en fait que la plupart d'entre eux se définiraient comme journaliste.
Ouais. Là, ça pose effectivement une autre question d'une ONG aussi qui participe, on va dire, au débat public et la mise en lumière de différentes vérités. Pour vous, Asia Baloufier, justement, Bellingcat, c'est aussi une référence. C'est une sorte à la fois de pionnier dans le monde de l'usine.
Oui, c'est clairement les pionniers à avoir eu une utilisation journalistique, en tout cas pour le plus grand nombre, quoi, pour le grand public, de l'OSINT, que je connaisse. Il y en a probablement d'autres qui ont moins percé. Mais voilà. Et par ailleurs, ils ont effectivement permis, je pense, d'apporter une légitimation de l'OSINT dans les rédactions. C'est parce qu'ils ont éclairci le mystère du MH17 que les directions des rédactions françaises et occidentales se sont dit il y a peut-être quelque chose à faire avec l'OSINT, et que par exemple des formations Bellingcat ont été organisées dans les rédactions. Ça a été le cas au Monde. Sébastien et moi on l'a suivi parce qu'on a suivi leurs enquêtes, on leur fait confiance, et on a vu le pouvoir, comme tout le monde, de révélation de ces investigations.
Un pouvoir de révélation. Et aujourd'hui, justement, le fondateur de Bellingcat, Elliot Higgins, hein, qui s'est d'ailleurs formé tout seul, hein, qui a un parcours justement d'autodidacte, un peu comme le vôtre d'ailleurs, je crois, Sébastien Bourdon, puisque vous n'avez pas fait d'école de journalisme, vous êtes formé aussi avec les outils, envisage un prolongement du moins de son travail avec une dimension aussi de justice. On va l'écouter, Elliot Higgins. C'est un extrait d'un reportage qui a été diffusé sur Arte.
Une de nos grandes priorités en ce moment est de développer des procédés autour de la justice et la responsabilité, examiner les violences qui se passent au Yémen, par exemple, et voir comment on peut les documenter d'une manière qui serait utile aux tribunaux. J'ai travaillé avec des organisations comme la Cour pénale internationale, par exemple, à examiner ces questions. Car si on ignore ça, on ignore une source massive d'informations sur une variété de conflits dans des régions où on ne peut pas s'attendre à ce qu'une enquête soit menée sur le terrain. Donc ce genre d'informations devient de plus en plus précieux.
Raya Romanos, par rapport justement aux propos d'Eliot Higgins, donc je me rappelle le fondateur du collectif Bellingcat, et la volonté de s'inscrire aussi dans une action auprès de la justice.
Oui, et c'est vraiment très intéressant à observer, hein. Donc là, on est sur, d'une certaine manière, alors là, Bellingcat, de fait, il se positionne à la fois dans le monde journalistique et à l'extérieur de ce monde journalistique. Mais on a aussi des médias qui sont journalistico-journalistiques qui, de fait, suivent cette même approche. Donc c'est pour ça qu'on observe ce que l'on peut, en tout cas, noter, c'est qu'il y a une forme d'extension un tout petit peu du territoire du journalisme. Alors quand ça se passe plutôt aux États-Unis, cette extension, elle suit une progression, j'ai envie de dire, naturelle. Il n'y a rien de particulièrement... Il n'y a pas de rupture. Donc le journalisme est fait pour informer, le journalisme est fait aussi pour enquêter, apporter des preuves, mais ça va au-delà. C'est fait aussi pour possiblement construire cette fois-ci un appareil de preuve qui peut être utilisé dans des cours de justice, qu'elles soient nationales ou internationales. Il y a un troisième usage qui serait celui de documenter, notamment des crimes de guerre. On l'observe, donc Bellingcat le fait, d'autres le font. Là où les choses se corsent un tout petit peu, c'est plutôt sur le terrain du journalisme ou dans le champ journalistique français, où c'est un tout petit peu plus, c'est plus polémique en tout cas, cette question-là, parce qu'il y a en France cette conviction, en tout cas il y a une doxa peut-être, qui consiste à dire un journaliste n'est pas un justicier. Et c'est, il s'agit là de deux mondes qui sont différents, avec des visées différentes et qui doivent le rester, de manière à ce que chacun puisse finalement pratiquer son métier selon le contrat, j'ai envie de dire, de communication qu'est son métier, et qu'on ne mélange pas les uns avec les autres. Donc même si il y a d'excellentes enquêtes qui pourraient tout à fait servir à un moment donné, être reproduites lors de procès, ce n'est pas l'enjeu principal. Alors les journalistes sur le plateau peuvent en parler, je suppose, que leur enquête soit mobilisée dans ce cadre-là, ils sont possiblement ravis, mais ils ne les composent pas avec cet objectif.
Et c'est vrai que là, on revient justement sur le côté un peu scientifique dont on parlait tout à l'heure, justement, des données objectives, analytiques, qu'on peut très bien imaginer dans le cadre d'une instruction d'un procès. Mais j'imagine que vous corroborez l'intuition ou les propos du moindre Aya Romano sur le fait que ce n'est pas votre envie, votre volonté à l'un et à l'autre.
Oui, oui, je pense que pour Sébastien comme pour moi, on fait ça pour le public, et c'est l'intérêt public qui après guide des évolutions de la société si besoin, mais c'est pas à nous d'aller faire des justifiés effectivement et de faire le rôle des juges.
Pour reprendre justement des propos du responsable de Bellingcat, lui, il parle du risque d'empoisonnement des données. C'est intéressant ce terme d'empoisonnement des données, puisqu'on a bien compris que c'était votre source numéro un, ces données. Or, on est quand même à une période de l'intelligence artificielle, des détournements, j'en ai parlé dans le journal. Comment on fait, Sébastien Bourdon, pour justement arriver à échapper à la désinformation qui peut être multiple, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi, des gens qui ont bien compris que c'est à partir de ces données que vous basiez, on peut aussi manipuler des données.
On peut tout à fait manipuler des données. L'idée est un enjeu central de la vérification d'informations, et qui peut notamment du coup se faire par le travail de recherche en source ouverte, c'est tout simplement de recroiser les informations, donc de pas prendre les données qu'on a sous les yeux pour argent comptant, et donc de vérifier, de faire un travail de vérification, comme j'en ai parlé, position de géolocalisation ou de chronolocalisation sur des images, quand on a des métadonnées, de vérifier systématiquement les informations. C'est typiquement très très facile de manipuler des métadonnées et de changer la date qui apparaît dans les données d'une image, par exemple.
C'était juste une question de ceux et celles qui nous regardent en ce moment sur Twitch, qui nous disait qu'effectivement, qui nous alertait sur l'idée que les métadonnées peuvent être facilement manipulables.
Ouais, c'est extrêmement facile à manipuler. On peut écrire à peu près n'importe quoi dans des métadonnées en quelques clics. Donc une des règles de base, en l'occurrence, quand on travaille avec des métadonnées, c'est de systématiquement vérifier et recroiser ou recouper les informations, comme le ferait n'importe quel journaliste avec d'autres types d'informations.
C'est ce que j'allais dire. Dans n'importe quelle enquête journalistique, on ne se contente jamais d'une seule source. En usine, c'est pareil. Si on a une seule base de données, source de données, c'est insuffisant pour conclure des choses. Il faut recouper ça avec plusieurs sources différentes qui ne se connaissent pas entre elles, etc. etc.
Et il y a aussi, puisque vous avez évoqué Wagner récemment, donc le groupuscule, le groupe, la galaxie Wagner, qui œuvre évidemment pour le Kremlin et qui défend les intérêts russes à travers le monde. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail d'usine pour essayer d'analyser la manière dont Wagner propage son information, ou plutôt sa désinformation sur l'ensemble des réseaux. Mais il y a aussi une plus grande habitude de la part du collectif Wagner pour essayer de comprendre qu'ils sont surveillés, qu'ils sont tracés. Donc c'est toujours aussi un jeu du chat et la souris, parce qu'on voit que les gens se renforcent par rapport à ces outils-là. Et puis tout de même, puisqu'on en parle beaucoup de Midjourney, des outils de manipulation d'images, ça paraît tout de même peut-être plus compliqué aujourd'hui de pouvoir utiliser ces sources-là, parce qu'elles semblent falsifiables assez rapidement en quelques clics. Alors vous allez me dire, on peut les repérer vite, mais tout de même, on se sent un peu plus noyé par le faux qu'à une certaine époque.
Il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, on va vers un monde où, globalement, par défaut, on va plutôt prendre les choses comme étant fausses que vraies, au premier abord, par exception et garde-fous. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut les construire, ces garde-fous. Par exemple, quand on cite une information, la sourcer. Quand on poste une image, la sourcer avec nommément l'auteur de la photo, par exemple. Je pense que ça, c'est une évolution qui pourrait permettre qu'on repère assez facilement quand la photo a été créée par Midjourney ou falsifiée d'une manière ou d'une autre. Bref. Cela étant dit, je pense que notre travail va être en fait encore plus important. Il ne va pas du tout être annulé. Enfin, l'OSINT en général va devenir essentiel, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, pour se repérer dans cet océan de faux. Parce que ça sera toujours une course, c'est-à-dire qu'effectivement l'adversaire continuera à se renforcer, exactement comme vous disiez, mais il restera toujours la capacité de démasquer, de voir quand il y a des choses qui ont été construites. Aujourd'hui sur Midjourney, je ne sais pas ce que ce sera demain, mais aujourd'hui, il est facile... si on y passe du temps, de voir qu'une image est fausse, pas seulement pour les mains qui sont ratées.
Pour les 8 doigts ou les 9 doigts.
Voilà. Mais aussi parce que si cette photo est vraie, elle a été prise à un endroit, par exemple. Et cet endroit, il est obligatoire quasiment qu'on soit capable de le retrouver, nous, en enquêtant. Et si on est incapable de le retrouver, c'est qu'il n'existe pas. Donc voilà, on y passe du temps, mais on parviendra, je pense, j'espère, toujours à débusquer les faux dans tout ça.
Raya Romano, justement, Asia nous disait que l'OSINT allait continuer, qu'on allait même justement avoir tendance à en avoir de plus en plus besoin. Il y a, j'imagine aussi, plusieurs avantages pour une rédaction, pour un journal, pour un média, de développer l'OSINT.
Oui, il y a des avantages. Et puis, moi, je suis tout à fait d'accord avec Asia. On ne peut pas laisser le champ libre à des acteurs malveillants qui sont à la fois déterminés, efficaces. On doit réagir. Et il s'agit là d'une des premières missions, finalement, du journalisme, que d'informer et que de traquer les fausses informations pour en donner les bonnes. Et donc, pour une rédaction, de manière, j'ai envie de dire, évidente, premier point d'importance, c'est celui de pouvoir proposer une information de qualité en ayant des journalistes formés pour pouvoir la composer. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, il y a de fait un avantage concurrentiel aujourd'hui que d'être en capacité, comme le fait Le Monde, par exemple, de mettre en place un service dédié qui va au-delà du simple fact-checking ou des fameuses enquêtes réactives, qui est en capacité de mener des enquêtes plus longues, plus abouties, qui par ailleurs ont en termes de narration une forme nouvelle, innovante. Il y a une forme aussi de très spectaculaire. C'est un avantage concurrentiel. Après, il faut mettre les moyens parce que c'est cher, ça implique beaucoup de monde, souvent des acteurs extérieurs à la rédaction qui viennent prêter main forte parce qu'ils ont telle ou telle compétence supplémentaire. Voilà, donc oui, là aussi, investir dans l'OSINT est une très bonne chose, si je puis dire, parce que c'est important, parce qu'il s'agit d'émissions journalistiques et parce que ça peut effectivement permettre à un média de se distinguer par rapport à d'autres dans un secteur effectivement qui reste très concurrentiel.
Sébastien Bourdeau, si on veut un peu poser une question critique, une petite critique de façade, on voit que justement la manière dont se structure un peu le milieu journalistique, on va de plus en plus vers une réduction des coûts, voire même des fermetures de bureaux de correspondance à peu près dans les grands médias. Avant, il était quand même logique d'avoir des correspondants un peu partout. On a tendance plutôt à réduire et à fermer ces bureaux-là. Est-ce que l'OSINT pour justement ces patrons de presse, ces grands médias, peut pas être une solution en se disant finalement on a moins besoin de gens sur place puisqu'on va développer des gens qui vont rester à la rédaction, qui vont pouvoir avoir justement ce côté un peu omniscient, qui vont pouvoir analyser différentes caméras et qui seront peut-être plus efficaces.
Non, je pense pas. Je pense pas réellement. Ce qui est vraiment important, je pense, de dire, c'est que l'OSINT à la fois apporte beaucoup de choses au journalisme traditionnel. Je pense absolument pas que l'OSINT, en tout cas, c'est pas mon l'idée que je m'en fais, a vocation à remplacer le travail beaucoup plus classique ou traditionnel ou historique du journalisme, qui est de travailler sur un terrain pour le coup physique, de rencontrer des gens, d'interviewer, d'avoir des sources, etc. Je pense tout simplement que l'OSINT a vocation à être un sorte de champ complémentaire, un nouveau terrain du journalisme complémentaire des méthodes traditionnelles et historiques du journalisme, mais n'a pas du tout vocation à le remplacer. En tout cas, à titre personnel, quand je travaille sur un conflit je ne sais où, ou un sujet à l'international, je n'ai pas la prétention d'avoir plus d'informations ou des meilleures informations que un ou une journaliste qui serait sur le terrain et qui irait enquêter sur le terrain ou rencontrer des personnes. Je pense simplement que j'ai des informations différentes et que donc le travail du ou au-delà journaliste sur le terrain peut être complémenté par le mien et pour avoir au final une information encore plus précise et peut-être un point de vue plus large.
Un point de vue plus large, effectivement, pour amener différentes sources, pour avoir une information peut-être même encore plus dense. Et c'est sans doute ce qui se passe aussi au Monde, par exemple, où il y a différents services qui peuvent faire corps pour délivrer une enquête. Celle qui va nous délivrer une chronique ce soir, c'est Marie Turcan qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Et Marie s'est intéressée à la représentation cinématographique justement du journaliste en se focalisant sur un film qui s'appelle She Said.
Oui, une des caractéristiques de Lozint, hein, vous l'avez dit, c'est de pouvoir découper minutieusement chaque étape de son travail pour montrer comment on a accédé à une information. Et cette thématique, qui me touche bien sûr en tant que journaliste, m'a fait penser à un film très important qui est sorti il y a quelques mois. Il s'appelle She Said. Il est inspiré de la véritable histoire de deux journalistes du New York Times, Jodi Kantor et Megan Towey, qui ont révélé le scandale Weinstein en 2017. L'affaire a permis d'initier le mouvement MeToo que l'on connaît bien. She Said, c'est l'adaptation par la réalisatrice Maria Schrader du livre du même nom, je l'ai apporté, hein, comme on est sur Twitch, vous pouvez le voir, dans lequel les deux femmes racontent les étapes de leur travail qui est colossal. Il s'agit d'une œuvre nécessaire à l'exercice du journalisme, et je pèse mes mots, on y apprend méthode, rigueur et empathie, trois axes que l'on retrouve dans le long métrage. On écoute un extrait.
Pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer? C'est tout le système qu'il faut remettre en cause.
Bonjour, je m'appelle Jodi Kantor. Je suis journaliste d'investigation au New York Times.
Alors ?
On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables.
Je refuse d'être citée. Point final.
Entendu.
Dans tes articles précédents,
qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience ?
L'un des arguments, c'était « Je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé. »
Mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte
que d'autres personnes soient protégées.
La vérité, c'est tout.
Cette dernière phrase, aussi présente dans le livre, hein, m'a beaucoup marquée. C'est une leçon basique et pourtant essentielle lorsque l'on s'adresse à des victimes. Derrière chaque histoire, il y a des humains et ce n'est qu'à travers elles et eux que l'on parvient à révéler des affaires. She Said montre que pendant des mois, Kantor et Towey ont essuyé de très nombreux refus, parfois durs à encaisser, sans se laisser déborder par la frustration. La force du film de Maria Schrader se loge dans cette sororité que l'on sent se nouer au fil de l'enquête, entre les journalistes d'abord, mais aussi avec leurs nombreuses sources féminines. On voit d'ailleurs combien l'affaire Weinstein s'insère subrepticement dans la vie intime de deux mères de famille, déborde sur leur vie privée et leur fait comprendre l'ampleur systémique du sujet auquel elles s'attaquent.
Alors est-ce que c'est pour vous, Marie, une des premières fois que l'on montre aussi bien le journalisme dans la fiction ?
Non, il y en a eu d'autres. Hein. J'ai notamment pensé à Spotlight en 2015, l'adaptation de l'enquête des reporters du Boston Globe qui avait rendu public un scandale de pédophilie dans l'église catholique. On y sentait déjà cette lenteur, voire cette douceur dans la manière de dépeindre les relations entre les reporters et les victimes. Et du coup, une question m'est venue pour vos invités, François. Vu comme Lozint est un travail si particulier, si numérique, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de les traduire efficacement en fiction ?
Alors peut-être une idée de fiction, ou peut-être que bientôt vous allez être consultant sur différents longs métrages pour pouvoir parler d'Ozint. Est-ce que ça serait justement cinématographique, cette Ozint ?
Il y a eu une enquête sur l'enquête de Bellingcat sur l'empoisonnement, la tentative d'empoisonnement de Navalny, qui est très bien, qui dure. C'est le documentaire qui a gagné l'Oscar.
Navalny, c'est ça.
Celui qui vient de gagner l'Oscar.
Exactement.
En 2023, qui est très bien, qui est passionnant, qui est pas du tout ennuyant. Donc je pense que c'est totalement possible. En tout cas, lui, il a réussi.
Lui, il a réussi. Je crois savoir qu'il développe d'autres projets justement de fiction du côté de chez Bellingcat pour arriver, eh bien, à traduire aussi sur cette forme-là les différentes vérités. Dernière question, peut-être. Sébastien, puisqu'on en avait parlé justement en introduction de cette émission, de ces citoyens, puisqu'on a bien compris aussi que Lozint c'était des sources ouvertes, c'était une méthodologie, c'était un esprit. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aussi demain être dans les mains de gens qui ne sont pas forcément journalistes, mais qui pourraient être formés à Lozint pour pouvoir eux aussi participer à une forme de recherche de la vérité, une participation collective?
Bah, tout à fait. Lozint, c'est donc une approche qui peut être utilisée. On en a parlé ce soir par des journalistes, mais il y a tout un tas de gens différents, et notamment des citoyens lambda entre gros guillemets, qui pratiquent Lozint dans différents cadres et dans différents objectifs. Nous, à Open Facto, c'est notamment ce qu'on essaye de faire. C'est une association, j'en parle très rapidement, mais qui a été fondée au début de l'année 2019. Le gros de notre activité, c'est de faire des formations, et notamment des formations ouvertes au public. Donc, on a à la fois des journalistes qui viennent à ces formations, mais on a aussi un peu monsieur, madame, tout le monde, ou des personnes qui travaillent dans différentes entreprises, dans différents secteurs, etc., qui viennent pour tout un tas de raisons différentes s'intéresser à l'OSINT et se former. Donc on peut tout à fait imaginer que l'OSINT continue à se démocratiser dans les prochaines années.
Voilà, c'est donc un appel, pourquoi pas, à se former. Puis un appel, tiens, qui vient aussi de Radio France, puisqu'on dispose d'un site alerté.radiofrance.fr. Si vous êtes lanceur d'alerte, si vous avez des documents à nous fournir qui pourront être vérifiés ici par la cellule d'investigation, n'hésitez pas à le faire. Donc alerté.radiofrance.fr. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné pour cette émission sur l'OSINT. Je remercie à la préparation Juliette Deveau, Héloïse Robert également, notre stagiaire, et à la modération sur Twitch, à la réalisation ce soir Camille Mathy, à la technique Marie-Claire Obamadi, et à la réalisation vidéo Olivier Arnay. Le meilleur des mondes, c'est terminé.